Que se passe-t-il lorsqu'on intègre événementiel, création de contenu, gestion de communauté, marketing dans un même contenant et qu'on en donne la direction à deux WizKids? Ça donne Bite Size Entertainment. Point de conversation avec les Durocher Brothers. Bon podcast!
Étudiant en commerce international à l'ESG Camp à John Molson.
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, puis j'ai fini à l'ESG parce que j'étais assistant à Bernard Landry à l'époque. C'était un peu mon parcours universitaire.
Là, t'as décidé, je me parle une boîte après ça.
Non, j'étais allé travailler comme directeur international de marketing pour une boîte qui s'appelait Boula, qui est dans le winter sports. Et par la suite, j'ai fondé un festival de films de ski. Donc, j'ai voyagé un peu à travers les États-Unis, l'Europe avec ça. Puis, à un moment donné, j'étais écœuré. Puis, j'ai fondé ma boîte avec mon frère.
Puis, toi, Martin, ton background? Toi, t'es le grand frère?
Ouais, le vieux, dans la game.
Juste deux frères, hein?
Okay. 5 ans de différence. Moi, j'ai étudié en communication politique à l'Université de Montréal. Puis, j'ai commencé ma carrière à Juste pour rire. Les deux premières années, j'étais à la recherche de subventions commandites. Puis après, j'ai tapé dans une porte de patron qui s'appelait Gilbert Rozon. Puis j'ai dit, écoute, moi, je veux faire de la prod, je veux faire du créatif. Fait que, bang, une crise directeur adjoint artistique au gala Juste pour rire. Paf, j'ai fait ça 3 ans. Après, je me suis tanné de ça aussi. J'ai dit, écoute, je veux d'autres choses. Je veux produire des shows, je veux développer des séries. Fait que pendant un an, j'ai produit toute la série relève de Juste pour rire. Puis, après, sur un différent salarial bien con, moi, j'ai décidé de repartir à mon compte, de refaire une business. Parce que Jeff, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'avant qu'on fasse l'université ensemble, on s'était parti une petite compagnie qui s'appelait Kamikaze Film. On faisait des films de snowboard, skateboard. Ouais, ouais. Mais là, lui, il avait genre 13 ans. Moi, j'en avais 18. Puis, c'était lui le kingpin de la patente. Parce que il avait trouvé... Écoute, on voulait aller faire du snow. Puis il avait trouvé une façon de partir une business que s'il vendait 36 tickets d'autobus, on en avait 4 gratis, puis on pouvait nous permettre d'aller faire du snow en autobus. Puis tout de ça, il découlait des films de snow. Puis en fait, c'était quand même une belle partie.
Toute la production de films de ski, puis de snow, puis de skate, c'est cool parce que c'est vraiment 1999 à 2004, OK? Ouais. On rentre dans la première édition de Final Cut, on rentre dans les premières cannes de Mini DV. Puis c'est cool parce que regarde, tu vois, j'avais un contact au Japon. J'avais un contact à Whistler, des bons amis de Whistler, évidemment, au Colorado, en Europe, puis on arrivait avec des budgets de bout de chandelle à faire des films qui étaient distribués à travers le monde, avec des reviews internationales. On était dans des magazines de snow japonais, un peu partout. Puis ça, ben, c'est dans mon ADN, tu sais, puis dans l'ADN de mon frère. La production de contenu, on l'a toujours vécu, on l'a toujours comprise. Puis toute cette démocratisation-là, on était au balbutiement, tu sais.
Fait que moi, quand je quitte Juste pour rire, ma première business, c'est que je reviens à mes premiers amours, puis je pars une business de production de contenu pour le web, mais on est en 2006. Ça marche 3 ans, parce que j'achète les cams de 2006, mais en 3 ans après, tu comprends, la première 5D sort. Puis là, tout d'un coup, ma game a des vidéos à un tel prix, ben c'est comme la game du photographe, tu comprends? Ouais. J'ai comme catché que si je bougeais pas bien vite, j'étais dead, puis j'ai décidé de fermer ça. Mais pendant ce temps-là, j'avais toujours gardé des liens juste pour elle, puis je faisais du développement de talent pour eux autres. Fait que j'allais voir des shows aux États-Unis, au Canada, okay. En France, en Angleterre, scouting. Pour trouver du scouting, exactement. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans en sideline, pendant que je faisais ma business. Puis en 2009, j'ai barré aux ondes, puis moi, on est à Édimbourg, puis il vient me voir, puis il me dit, écoute, j'ai cette idée-là de faire une espèce d'Édimbourg d'Amérique du Nord, un premier festival, mais sur le modèle des fringe puis des off. Ou ce qu'un partage de risque avec l'artiste. Tu prends des artistes pas connus, tu les mets dans des salles que tu inventes à un prix pas cher, mais tu payes pas d'avance, tu payes sur le cachet de la porte. Fait que tu splits le cachet de la porte. Okay. Moi, je prends le marketing, la technique, la salle, le promo, les sites web. Toi, tu t'occupes de ton show, puis on split la porte 50-50. Fait que j'ai écrit l'idée qui est devenue ZooFest. On a parti Bite Size en 2011. Ça a été parmi les premiers projets de Bite Size aussi. Juste pour rire, ZooFest, les premiers gros clients de l'agence.
Étudiant en politique,
communication
là,
politique.
Moi, je veux faire de la prod. Fait que si t'ennuyais de ce temps-là avec ton petit frère, tu faisais des films, ça t'avait marqué pareil, cette
boîte-là. C'est sûr, parce que toute la prod de contenu, puis même Jeff disait pas, mais tu sais, on a filé des émissions de sport extrême, que ça soit la gang sur Musique Plus, des shows, un show qui s'appelait Adrenalina sur Fox News à l'époque.
Fait que vous avez commencé à faire du contenu avant que le monde parle de contenu.
Tu sais, quand je te parle d'hybride.
En 2000, j'étais le rédacteur en chef de bière.com. Ça, c'était un site qu'on avait créé toute pièce. Puis on écrivait, on les photos, là, on mettait du contenu, puis tout ça. Puis on appelait pas ça du marketing de contenu. C'était whatever.
Mais tu faisais.
Après ça, je faisais un blog pour Volkswagen, puis iCarist, encore du contenu, personne ne parlait de ça. Après ça, j'allais avoir des clients, le contentizing, là, j'avais décidé d'appeler ça de même. Là, c'est ça cette affaire-là. Puis d'un coup, content, là, si tout le monde fait comme le contenu vient d'apparaître, faites beaucoup de contenu présentement.
Oui. Puis en fait, c'est le fun parce que. Tu vois, en 2012, on a gagné des boomerangs pour les meilleures stratégies de contenu. Puis, on a prêché énormément les stratégies de contenu. Puis souvent, ben, on se trouvait, puis probablement que c'est un peu ça que tu as fait aussi durant ta carrière, c'est que tu arrives, tu expliques la stratégie, tu expliques le pourquoi. Mais à un moment donné, il y a beaucoup trop d'éducation.
T'es 5 ans trop tôt.
C'est ça, t'es trop à l'avance. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu prêches dans le désert, puis on aime bien ce que tu fais, mais non, ça marche pas parce que t'as pas de TV, puis t'as pas de rassurant. C'est pas assez rassurant.
Mais ça, aujourd'hui, on reap les bénéfices de cette expérience-là.
C'est ça.
Comme n'importe qui a ça pendant des années, puis qui se réveille au bout de dire « Hey, ouais, on leur parle! » Mais là, le monde commence à être éduqué. Là, des fois, on reçoit des vrais calls où c'est comme « OK, j'ai besoin d'un ambassadeur, là. » Là, je catch. Je veux un ambassadeur. Je veux des pages Facebook qui ont du contenu puis de l'engagement.
Les résultats qu'ils obtenaient avant avec leur stratégie ne fonctionnent plus. Donc, ils veulent avoir d'autres choses de nouveau.
Fait que vous faites du contenu, vous avez un événement. Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Faites des sites web, des applications, de la stratégie.
Du branding.
Ouais,
on a rebrandé une coupe de marque dernièrement, dont les guitares Seagull, marque disponible dans 60 pays.
Nouveau site web, nouveau branding, nouveaux accessoires, redesigner les gig bags, couleurs de guitare, les fleurons autour des guitares, des ronds de guitare. Vraiment un très
bon. Repenser de A à Z, de nouvelles stratégies de contenu. Puis tu sais, c'est une marque, quoi, il y a 10% du marché américain qui
s'est dit que c'est gros. Personne ne sait ça. Mais parce que, compagnie familiale, avec une très bonne philosophie de gestion, qui était très simple, c'est si nos instruments sont bons, les musiciens vont s'en parler. Fait qu'eux autres, leur marketing, c'était Guitar Mag, Guitar Player, Guitar.com. Ça s'arrêtait à ça parce qu'ils disaient, il n'y a personne d'autre qu'un guitariste qui veut acheter une guitare. Nous autres, on a dit, attention, il y a un folk revival qui est en train de se produire en ce moment. Les ukulélés, ça va vendre. Les filles, c'est un nouveau marché qu'il ne faut pas négliger parce qu'en guitare, c'est très masculin-centric. On fait une analyse de tous les sites web, à peu près 65 compagnies de guitare. On se rend compte qu'un seul a catché qu'il fallait la mettre dans les mains des êtres humains. Toutes les autres, je te parle de 64 sites web de guitares. C'est des guitares sur des fonds de studio, fonds noirs,
des œuvres d'art,
fonds de bois. Ouais. C'est la guitare en œuvre d'art. Mais il y a un mythe autour de ça, tu sais. Utilisons-le. Vendons un lifestyle et non pas un instrument. On en fait une coupe de même.
Là, tu vois, en ce moment, regarde, on travaille sur Poppers. Donc, l'Alco Malt
Poppers. Qui commandite le festival de tableau.
Ah ouais.
C'est eux qui font Mons. Tu connais cette bière-là?
Les bières Mons.
M-O-N-S.
Brassé avec l'Expo-là, en fait, en Abitibi, etc. Super bonne bière.
D'inspiration belge, vraiment bien faite. Puis, ils ont un paquet d'autres produits en alcomalt. Donc, Poppers, qui est le numéro 1 au Québec en alcomalt, qui est finalement le compétiteur de Smirnoff Ice, mais qui est au Québec numéro 1.
Bacardi Breezer, etc. Puis, le défi qu'on avait, ben, c'était comment on prenait une marque numéro 1, qui a quand même une grosse clientèle, etc.
Et qui est attaquée de toutes parts par les Pombé, Mad Jack.
Fait qu'une nouvelle campagne télé, une nouvelle campagne d'affichage.
Faudrait que tu regardes la pub T40, c'est vraiment pour un. Tu sais, ce qu'on appelle le stoner comedy, là, toutes les stocks après 11h le soir.
Un autre exemple de rebranding qu'on a fait, c'est en Suisse avec le Montreux Comedy Festival.
Ouais.
Ça, c'était cool parce que ça aussi, on a un nouveau logo, une nouvelle manière d'afficher. Puis, c'était la première fois en 30 ans d'existence que leur affiche ne mettait pas en vedette des comédiens, des stars.
Ouais.
Donc, on est arrivé avec une stratégie qui disait, écoute, ton festival, c'est lui la star et on va s'assurer que faire ta prévente en fonction de ta marque et non en fonction de qui va être au festival. Parce que no matter what, les gens vont rire. Et puis ça a été la plus grosse prévente qu'ils ont jamais eue en tant que temps.
Puis à l'époque, tu sais, l'année passée, en fait, en septembre 2016, on lance la campagne. Puis la campagne, c'est on va rire de tout.
En Europe.
Mais là, dans le contexte, en Europe, après les attentats au Charlie Hebdo, tout ce qui s'est passé, on va rire de tout, les humoristes, mon gars, il y a tout le monde à adhérer à ça. Fait que là, c'est ce qui est parti comme une tagline a fini par être le gala de clôture. C'était le titre du gala de clôture parce que les humoristes ont dit « Attends, êtes-vous game? » On est game. Fait que la direction de programmation a dit « On est game. » Fait que « OK, si je parle de ça, 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 les autres parlaient avec France 2, qui était leur diffuseur, dans le contexte de on va rire de tout, ça, ça, ça. Go.
Dans 5 ans, qu'est-ce que vous faites, les boys?
On fait la même affaire, mais plus de monde puis plus de clients convaincus.
Ouais. Convaincus? Comment tu fais de les avoir plus convaincus?
Ben, c'est d'aller...
Ils vont être rendus là ou...
Non, on va aller les chercher un par un, sincèrement.
Ouais.
Sincèrement, nous autres, on rêve d'une belle et grande agence. Tu sais, aujourd'hui, on a une belle agence de taille moyenne, tu sais, quoi, 23 employés plus les deux fondateurs. Plein de pigistes, plein de monde qui gravite autour, puis tout ça. Mais on sait qu'on a le potentiel, qu'il y a un momentum dans ce qu'on fait, dans ce qu'on connaît surtout, tu sais, parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera pas ce qu'on va faire dans 5 ans. Mais notre façon, on y croit vraiment, tu sais.
Toi, dans 5 ans, tu penses à la même chose que Martin?
Ben oui, non, on est aligné sur notre vision, c'est sûr. C'est ça qui est fabuleux, c'est que je pense que les opportunités aux États-Unis pour des boîtes comme nous autres qui sont là, à Toronto également, et la faiblesse de notre dollar fait qu'on est tellement attrayant aux États-Unis, c'est fabuleux. Fait qu'il y a beaucoup de voyages à New York ces temps-ci. J'ai l'impression que les capacités de production, que ce soit web, vidéo ou autre, n'ont pas de frontières. Donc ça, c'est assez le fun.
En fait, encore une fois, c'est
avantageux
ici.
Ben, c'est ça. C'est, oui, mais c'est ça, on s'entend. Je veux dire,
on a les meilleurs créatifs.
En plus, c'est pas juste
une question. Sincèrement, au Québec, on sait se démerder avec des petits budgets. On l'a prouvé au cinéma, on l'a prouvé dans tous les domaines.
Puis la pièce, on sait à stretcher. Fait que, tu sais, rendu là, pour eux, on devient tellement un no-brainer que c'est intéressant. Faut juste le faire adéquatement. Puis là, tu vois, on est dans cette optique-là de grossir, de dire, bon, mais là, faut ouvrir nos horizons, puis je pense que c'est là où on va grossir davantage.
Dans 5 ans, le biscuit ou le nom va changer, ça ne plus.
Ça va être big size, hein, oui, je sais.
Big size,
c'est le paradoxe. C'est le paradoxe qu'on va vivre.
C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir été à l'écoute. Si le cœur vous en dit, poursuivons cette conversation sur Twitter via le hashtag GrenierMag et mon identifiant Pizza4All. Pour écouter d'autres Pizzcasts, rendez-vous sur le Grenier aux Nouvelles. Vous pouvez également me retrouver dans la section podcast d'iTunes sous Das Pizzcast. Ou bien, venez donc faire un petit tour sur mon site web, miron.co. À la prochaine!